Bienvenue à la French Connection, épisode 18.
Bonjour, cette semaine nous avons un plus petit crew avec nous, nous avons seulement Richer.
Hello!
Les autres ayant des obligations qui leur empêchent de se joindre à nous aujourd'hui. Donc, on va commencer rapidement avec AWS qui a connu, Amazon a connu un leak. Cette fois-ci avec des données militaires qui ont été sorties. Semblerait encore une fois que c'est un problème de configuration de l'utilisateur. Ça commence à être un sérieux problème pour l'image Amazon et pour les gens qui s'y stockent, ou en tout cas du moins le niveau d'éducation que les gens qui utilisent Amazon ont.
C'est quand même plate parce qu'en réalité, comme on en parlait la dernière fois, Amazon fait pas mal de gros efforts pour être capable d'éduquer ses utilisateurs, pour faire en sorte aussi que ce soit de base sécuritaire. Et pourtant, les gens finissent par se tirer dans le pied en faisant des reconfigurations et en se causant des problèmes de cette façon-là.
Ouais. Dans ce cas-ci, étant donné que c'est des données militaires classifiées, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont se faire frotter les oreilles un peu plus, puis peut-être qu'Amazon aussi va avoir un incitatif beaucoup plus grand à mettre des outils peut-être plus sophistiqués, ou en tout cas pas plus sophistiqués, mais plus complets dans les mains de leur utilisateur, justement pour mettre encore plus de limitations à ce que les personnes se tirent eux-mêmes dans le pied.
Oui, mais c'est justement, quand on y pense, on regarde une couple d'années, de configurer par exemple un système Linux, fallait que tu aies plusieurs connaissances pour savoir comment un système fonctionnait pour être capable de compiler ton kernel pour que ça marche avec ton hardware. Tu avais besoin d'avoir énormément de connaissances. Plus en plus, ça devient de plus en plus facile par rapport au desktop. Comme on installe un Ubuntu, c'est super facile. T'sais, on installe ça, c'est pas compliqué sur une machine. Ça détecte pas mal tout. Même chose pour un Windows. Avant ça, il fallait installer les drivers, il fallait sortir la disquette pour pouvoir être capable d'installer ça sur Windows 2000. Puis, tu sais, on s'entend, là, on voulait installer des RAID et ces choses-là. C'était pas si simple que ça, mais c'est de plus en plus simple. C'est de plus en plus facile de pouvoir mettre ça à portée des gens. Le problème, c'est justement, on essaie de pouvoir simplifier au niveau de la sécurité, mettre ça quand même convivial, mais il n'y a pas le principe d'éducation en arrière que les gens n'ont pas besoin de connaître ou de comprendre les implications qu'il y a en arrière, que ça peut causer des problèmes et que ça peut. Pourquoi que tu ne fais pas ça? Puis pourquoi que, par exemple, comme dans le cas d'un par exemple un sans-fil maison, pourquoi que c'est important de mettre un mot de passe dessus? T'es pas de le laisser par défaut. C'est des choses comme ça que je pense que c'est de la awareness que les gens puissent avoir un peu plus de connaissances à ce niveau-là. Ou je sais pas, j'essaie de voir comment qu'on peut régler ça facilement. C'est sûr que j'ai l'impression que c'est pas vraiment faisable parce qu'en réalité, ça prendrait un permis. On va faire un permis pour que les gens aient le droit d'utiliser un ordinateur ou bien qu'il ait une certification particulière pour avoir le droit de toucher un clavier. Mais non, faire sa part.
C'est une drôle d'idée.
Non, mais tu sais, je veux dire, à quelque part, mais faire sa part, reste qu'il y a quand même un niveau de connaissance qui est nécessaire, malgré le fait que c'est de plus en plus facile de pouvoir tout faire ça, de pouvoir réaliser des projets, mais les gens ont justement pas besoin de connaître les ramifications en arrière. Donc, je pense que ça, c'est un gros bout du bâton, un gros problème dans toute cette polémique-là.
Ouais, ben c'est ça, ce sera à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que des vieux routiers comme nous autres, on a connu justement, comme tu dis, l'installation d'un Ubuntu, avant que Ubuntu soit facile, avant qu'on installe des Red Hat, qu'il fallait recompiler son kernel soi-même, puis il fallait patenter nos affaires pour essayer de trouver un driver qui réussit à faire lever les affaires comme nous autres, puis on a tapé un effort avant de réussir à avoir un résultat. Donc, on a comme un vécu, une connaissance qui est inhérente à ça, en TI. Puis, ben, là, nous, dans notre domaine, plus en sécurité en plus, où on a connu des moments où la sécurité était plus faible. Mais là, on met dans les mains des outils très puissants avec d'une très grande facilité d'utilisation, des utilisateurs qui n'ont pas tout ce bagage-là qui les accompagne. Quand tu penses ça d'un permis, ça serait quasiment ça. C'est comme, dans le fond, l'automobile, tu sais, on peut pas faire conduire quelqu'un qui n'a pas de connaissance de conduite parce que c'est dangereux parce qu'il va blesser les autres. Mais à ce stade-ci, dans le fond, les gens qui n'ont pas suffisamment de connaissances en sécurité finissent par créer des dommages matériel, du moins, au sens où, en tout cas, monétaire, pas matériel. Mais jusqu'à un certain cas, s'il y a des années classifiées qui circulent, mais là, ça peut être des dommages humains qui peuvent arriver par ce manque de connaissances.
Oui, c'est ça. C'est pas fondamentalement, je pense pas que les gens veulent, à moins d'avoir des motifs ultérieurs qui sont mauvais, mais à la base, les gens veulent bien faire, ils veulent juste que ça fonctionne. Et ils ne veulent pas avoir besoin d'avoir à comprendre tout le reste d'infrastructure. Comme, par exemple, un programmeur n'a pas nécessairement besoin de comprendre comment un ordinateur fonctionne, comment le CPU fonctionne avec la RAM et tout ça. Sauf que ça aide dans certains cas. Où est-ce que tu peux programmer plus près du matériel? Ça peut aider dans ce cas-là de pouvoir savoir ça. Donc, c'est toute une question de perspective aussi de niveau de connaissance. Les gens, si tu ne veux pas l'apprendre, bien, si tu ne veux pas le savoir, tu as peut-être besoin d'aide à pouvoir compléter tout ça pour être sûr et certain, ou bien de faire un QA après pour vérifier que c'est correct, que tout est bon. S'il y aurait peut-être un petit test rapide qui pourrait dire, OK, mais finalement, regarde, un test de vol, un test de pré-vol, on pourrait dire en traduisant, traduction libre. Mais en réalité, parce qu'il y a juste le mot en anglais, le pre-flight check, qui me vient en tête. Donc, ouais. Tu sais, si on fait regarder ça, bon, mais ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça pourrait causer un problème. Tu sais, avoir peut-être une petite vague idée de dire que ça peut causer un problème et voici pourquoi. Tu sais, sans nécessairement dire que, bon, mais ça va faire une attaque de telle façon, puis ça va te faire causer un MITM avec ça, blablabla. Tu sais, juste au moins dire que tu as un risque de vol de données de cette façon-là à cause de ça. Fais pas ça. Ou bien, si tu le sais, faut que tu te rendes compte que tu acceptes, tu sais, j'accepte et tu fais une cession des droits pour dire comme quoi que finalement c'est pas la faute d'Amazon, par exemple, à cause de ça. Donc, je sais pas, tu sais, c'est une idée, là.
Ouais, c'est sûr que Amazon s'en lave les mains un peu parce que c'est demain le problème de configuration de l'utilisateur qui a mal configuré ses choses. Fait que ça, c'est tout à fait dans. C'est une drôle de situation parce qu'on n'en sortira pas. En tout cas, dans la façon actuelle, il n'y a pas d'autre façon. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être avoir un permis pour accéder à des configurations plus avancées. Puis à partir de ce moment-là, d'accéder à pouvoir se tirer dans le pied. Sinon, avant ça, si tu n'es pas certifié, ben, tu n'as pas le droit d'aller accéder à ces configurations-là qui pourraient te finir par te blesser toi-même ou en tout cas blesser d'autres personnes par la fuite de l'information.
Oui,
dans ce sens-là.
C'est de voir, mais ouais. Dans le fond, je dis, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais il y a toujours un mauvais côté ou un bon côté à toutes les choses. Donc, c'est sûr que ça n'empêche pas d'avoir des accidents que d'avoir un permis de conduire, mais ça peut quand même aider à prévenir plusieurs choses. Donc, on s'entend, on n'est pas si pire sur les routes, je pense. Là. Fait que, on voit
ça. Ça réduit exact. Beaucoup. Ça vient beaucoup de réduire, puis tant qu'à faire un lien sur la facile utilisation, cette semaine, Apple s'est fait pincer avec un mot de passe root sans finalement mot de passe. Ils se sont rendus compte qu'il s'agit de rentrer le nom d'utilisateur root, puis cliquer, je pense, c'est deux fois sur Enter, et à la deuxième fois, même si le mot de passe est vide, il va rentrer malgré le fait qu'il n'y a pas de mot de passe qui est dedans. Ce qui est encore dans la même lignée de réflexion. Et en plus, ça m'a bien fait rire parce que ce genre de problème-là, parce que chez Apple, ils ont cette fâcheuse habitude-là de cacher les configurations qui sont accessibles que quand on échoue deux ou trois fois de suite à une saisie d'information, que cette information devient disponible ou accessible. Mais dans ce cas-ci, le fait que ce soit un root, c'est un petit peu plus dommageable.
Oui, juste un petit peu. Hein. C'est comme, ouais, c'est un petit peu de donner la clé de sa maison, de la mettre sur le dessus du, ou de la laisser dans le poignet. C'est quasiment ça, là. Puis donner un signe pour dire, ouais, vous pouvez venir chez nous, là, il n'y a pas de trouble.
Ben, laissez ton auto avec le moteur qui tourne avec les portes de bord.
Même affaire, comme ça, les fenêtres ouvertes, puis il n'y a pas de problème.
Et ensuite de s'étonner que l'auto ait disparu. Hein.
Exact. Mais c'est spécial parce que je veux dire, on ne s'attend pas. On s'entend, les problèmes de sécurité, on peut avoir n'importe quand, des bugs, il y en a tout le temps. Ça, il ne faut pas s'étonner de ça. Mais que ce soit, comme tu disais, des choses cachées comme bon, on pèse sur Enter deux fois, fais shift, fais une petite danse, puis après ça, tu es capable de rentrer sans mot de passe. C'est bizarre, ça. C'est quand même bizarre.
Ouais, mais ça, c'est un abus. Je pense qu'il doit y avoir des gamers chez Apple parce qu'il doit faire genre flèche en haut, en bas, en bas, B, B, X, Y, X, Y. Pouf, tout à coup, t'es capable d'avoir une part de magique. Là.
T'as des codes Konami là, qui sont cachés un peu partout.
Tu peux tomber dans un God Mode avec une séquence sur ta manette.
Un no clipping, puis tu peux passer au travers. Puis...
Mais c'est dommage que ce bug-là est fascinant, mais dans la philosophie d'Apple, il n'est pas nécessairement étonnant non plus. C'est juste qu'il y a peut-être quelqu'un qui a manqué de jugement dans l'ensemble du processus. Puis je pense qu'on n'aura jamais la vraie version en arrière.
Ouais, c'est un peu ça le pire, parce qu'en réalité, je pense qu'en général, les gens qui découvrent qu'il y a un problème, ils peuvent pardonner quand même assez vite, tant qu'ils ne se font pas prendre pour des épais. Se faire prendre pour un épais après ça, t'sais, que d'avoir un camouflage puis de faire comme « non, 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 c'est pas nous autres, c'est pas de notre faute », c'est pire que de juste dire « gars, on a fait une erreur, on va corriger ça. » À cette heure, gars, on vous le dit pour que vous le sachiez. Tu sais, c'est de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Et ça, de pouvoir avoir une certaine transparence, ça pourrait aider. Donc, de ne pas le savoir, je veux dire, c'est fort probable qu'on ne le saura jamais. Sauf que de le savoir, je trouve que ça serait intéressant. Ça serait intéressant de pouvoir le savoir parce que c'est comme un peu de connaître l'histoire et de ne pas répéter les erreurs des autres. De dire, regarde, on a fait ça de même, oui. Faites pas ça. Si jamais vous produisez quelque chose, ben, c'est peut-être pas une bonne idée de ça de telle façon. Tu sais, sans nécessairement rentrer dans le détail de toute l'infrastructure, comment c'était monté, puis tout le code source, je demande pas ça, mais juste d'avoir un détail de dire, bon, ben, regarde, c'était un bug dans telle affaire, puis on l'a corrigé. Ouais.
Ah, tout à fait. Puis, de toute façon, dans cette perspective-là, tu vois, j'organise en décembre, le 14 décembre, un panel de gens qui vont venir discuter de mésaventures en sécurité, des choses qui ont eu de la difficulté, qui vont partager leurs problèmes qu'ils ont rencontrés pour justement que les gens en bénéficient de cette connaissance-là et ne répètent pas les mêmes erreurs que les autres ont déjà faites. Là. C'est un peu ça le but de l'histoire, d'éviter de répéter nos
failles deux fois. Je trouverais ça intéressant. Je pense que ça serait une belle démarche de leur part. Puis ça pourrait peut-être redorer un peu leur blason là, pour dire que t'sais, je ne sais même pas si c'est une expression qui est bonne, mais bon, c'est juste pour pouvoir leur dire comme quoi on n'est pas si pire que ça finalement. Là. On veut vous aider, mais ça nous tient à cœur que ce soit sécuritaire. T'sais, c'est juste comme donner une petite coche de plus. C'est pour montrer la bonne foi rendu là. Je pense que c'est un exemple de bonne foi que d'avoir une certaine transparence à ce niveau-là et de pouvoir être capable de montrer une vulnérabilité dans le fond. On a fait des erreurs, on est des humains. Bon, on le corrige.
Bon, on n'est pas tout à fait
un jour, peut-être. Je veux dire, moi, je prône ça, mais c'est comme. Je sais pas, je peux juste espérer. Tu sais, on sait pas. Peut-être.
Non, on sait pas. C'est des choses qui pourraient changer dans les modèles de communication. Mais tant qu'il n'y a pas de choses qui viennent nous mordre du passé, Mirai refait.
Oui, donc, comme c'est là, il y a des gens qui ont des pas des botnets, mais des honeypots pour être capable de sniffer l'Internet en général, c'est pas inconnu. Et ils ont découvert qu'il y avait des nouvelles tentatives d'attaque qui ciblaient des modems DSL, ZXL, en Argentine. Donc, et qui essayaient de pouvoir faire revivre le botnet en tant que tel. Donc, c'était ce qui était vu dernièrement. Donc, ce type d'attaque-là, parce qu'il y avait des scans qui essayaient de se faire sur des ports. Donc, il y a des ports qui sont ouverts comme le 23-23 et le 23, donc Telnet. Puis, il y a un autre, probablement un Telnet secondaire qui est ouvert là-dessus. Donc, c'est plate. C'est plate de savoir. Tu sais, je veux dire, on s'entend, mais au moins SSH, je sais pas. Mais bon. Fait que.
Bon, on reste toujours dans le même univers de IoT.
C'est le même principe. Mais reste en ligne de compte que je sais pas c'est quoi ce type de modèle-là, si c'est des vieux modèles de modem ou bien c'est juste, j'ai pas vu le détail pour ça, mais il semblerait que justement c'est encore ça vit encore sur Internet. Il y a encore un petit nuage de noirceur, un petit nuage noir là, comme Kalinours qui vit au-dessus de l'Argentine présentement pour ces modems-là, ceux qui ont du DSL avec ces modems-là. Donc, c'est désagréable.
Ouais, ça continue toujours à être désagréable. Puis, parlant de choses qui sont désagréables, il y a une recrudescence de ce qu'on appelle encore des pop-under. C'est des fenêtres pop-up qui, pour une raison obscure, s'affichent pas à l'utilisateur, parce que je pensais que c'était un point qui avait été réglé dans les dernières années, justement pour se débarrasser de tout le adware. Puis ces temps-ci, ce qu'ils font, bien, c'est qu'ils utilisent ces pop-under pour créer des mineurs de Bitcoin ou de cryptocurrency, peu importe laquelle, qui vont aller miner avec ça puis aller se faire de l'argent sur le dos de pauvres personnes, je ne dirais pas sans défense, mais peut-être un peu ignorants de ce qui se passe. Puis Les pop under, c'est assez difficile à s'en débarrasser aussi. Là. On s'en rend compte souvent quand on a juste fermé la fenêtre.
Oui, c'est ça. Ils ne sont pas très visibles. Souvent, ils sont juste dans le coin. Tu le vois comme une fraction de seconde qui apparaît puis qui s'en va se cacher dans le coin avec un pixel dans le coin à droite. Là. Mais ça, c'est assez désagréable, ce genre de choses-là. Puis tu t'en rends compte. Si tu fais du monitoring au niveau de ton CPU, puis là, tu t'en rends peut-être compte un petit peu. Mais autrement, c'est sûr, quand ta machine commence à surchauffer parce que tu as un ventilateur qui est dynamique avec la température, ça peut aider. Je pense que l'idéal, ça serait ça. Ça serait que tout le monde puisse avoir leur ventilateur placé de façon dynamique pour, premièrement, une économie d'énergie. C'est déjà une bonne chose. Et deuxièmement, pour savoir, bon, mais quand que l'ordinateur commence à faire l'avion, soit qu'il est sale, ou soit que c'est parce qu'il est en train de travailler trop fort. Pose-toi des questions. Donc.
Ouais, ça serait peut-être bon de peut-être mieux encadrer les utilisateurs pour qu'ils voient ça. Parce que moi, j'ai toujours visuellement dans ma barre de tâches l'usage de mon CPU. Fait, j'ai toujours une idée de ce qui se passe. Fait que quand je vois que ça s'étire trop longtemps, je vais intervenir pour voir ce qui se passe. C'est pas quelque chose d'une anomalie que je suis pas au courant. Mais la plupart des gens ont pas un, cette. Ouais. Affichage-là. Et deux, on n'aura pas ce réflexe-là. Fait que ce serait peut-être d'avoir soit à même Windows ou soit à même macOS, une espèce d'alerte, genre ça fait plus que 5 minutes que ton CPU est à 100%, il y a peut-être quelque chose qui va pas bien.
Juste comme ça, sans qu'il y ait besoin de savoir que bon, mais c'est le CPU qui chauffe parce qu'il est en utilisation, blablabla. C'est vrai, juste avoir une alerte de dire le système semble avoir utilisé plus de ressources que normal. Est-ce que c'est. Parce qu'on le voit, on l'a dans Windows 10 qui dit il y a des ressources qui sont utilisées plus que d'habitude qui peuvent. Quand tu es sur la batterie, par exemple, il va te le dire. Mais je n'ai pas remarqué, par exemple, quand il est en utilisation branché dans le secteur, si il dit par rapport à l'utilisation. C'est vrai que ça serait quelque chose de bien. Ça serait juste de dire, bon, regarde, il y a quelque chose qui se passe. Vérifie, est-ce que c'est parce que tu es en train de faire travailler trop fort ton ordinateur ou parce que tu as un problème? Assure-toi de peut-être analyser ça, vérifier s'il n'y a pas un trouble en arrière.
Ouais, je connais mal Windows 10, je ne sais pas, mais du moins en macOS, on a des capacités. Quand on clique sa batterie, il va nous afficher quelles sont les applications qui vont bouffer, bouffent le plus d'énergie. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être avoir une alerte quand ça s'étire sur trop longtemps. Mais c'est peut-être cet aspect-là qui est manquant, qui deviendrait une espèce de mécanisme défensif pour réduire. La probabilité.
Pas drôle pareil, parce qu'on parle de ça comme si c'était quelque chose qui pouvait être. Mais tu sais, c'est pas supposé être normal, mais bon. Mais il y a aussi le principe que j'imagine que ces pop-under-là qui vont faire du mining vont possiblement rouler sous le process du browser, du navigateur rendu là. Fait qu'à ce moment-là, c'est quand tu vois Chrome qui utilise beaucoup de CPU, t'es pas étonné, là. Et même affaire pour la RAM, là. Tu sais, c'est comme, waouh, c'est normal. Fait que tu peux peut-être avoir des faux positifs rendus là, mais. Pour ce qui est de Firefox, jusqu'à date, moi j'ai été bien étonné là, que ça allait très très bien. Là. Fait que, ça peut, si ça roule sous le même process, ça peut peut-être causer des faux positifs à ce niveau-là. Mais bon, ça serait bien. Je pense que ça serait bien qu'il y ait une alerte à ce niveau-là. Ça serait une bonne
démarche. Ce qui arrive, c'est que les gens sont de plus en plus imaginatifs pour réussir à frauder les gens. Là. Ultimement, dans ce cas-ci, c'est des cryptocurrencies qui sont utilisées pour ça parce qu'il y a de l'argent à faire.
Ouais.
Mais peu importe, ce qui est à faire, c'est qu'il va y avoir de l'argent. Dès que les gens vont trouver un moyen de faire de l'argent avec les autres en les abusant, comme dans ce cas-ci, en utilisant la puissance CPU, ça va se faire tout le temps. Puis, mais à l'heure actuelle, je dirais l'usage CPU dans un cas de Bitcoin est un peu futile parce que ça rapporte quasiment plus rien maintenant. Là. Il faut des équipements spécialisés pour réussir à miner de façon intéressante.
Ah oui, non, c'est ridicule. Si on commence à miner du Bitcoin avec un CPU, même un i7 qui est quand même puissant, non, c'est pas. Ça vaut presque pas la peine. Tu sais, je veux dire, tu fais chauffer ton matériel, tu fais partir la fan pour juste aérer la pièce et la réchauffer. C'est pas mal juste ça. Là. C'est tout ce que ça donne rendu là. Ça donne même pas. Tu gaspilles de l'énergie pour rien. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, au volume peut-être. Avec une quantité d'une centaine, peut-être 10 000 zombies, peut-être que ça vaut la peine un petit peu. Là. C'est l'équivalent de peut-être une GeForce 1080.
C'est sûr, mais quand c'est pas toi qui paye l'électricité, tu t'en fous aussi.
Oui, non, c'est ça. Mais je veux dire, en quelque part, par comparaison, si on décidait de le faire nous-mêmes, c'est tout ce que ça fait. Là. C'est pas, ça réchauffe la pièce.
Ça peut, ça, Ça déplace de l'air et ça réchauffe la pièce.
Exact.
Ça rend ton expérience d'utilisation désagréable sur ton ordinateur.
Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, ça devient une brique à convecteur. Là. C'est tout ce que ça fait, là, finalement. Mais bon.
Oh là là. Tant qu'à parler de criminels, il y a eu un task force qui a permis justement de mettre des certains nombres de domaines hors ligne.
Oui, exactement. Donc, il y a eu au-dessus de 20 520 sites web avec les domaines qui ont été saisis par un énorme groupe dont la FBI, le département de la justice, Interpol, Europol, pour nommer quelques-uns. Tous ces sites-là pointaient sur de la contrefaçon de produits, dont des sacs, des souliers, des choses comme ça, des produits de sport, d'électronique, des médicaments, du piratage et d'autres plateformes de e-commerce aussi. Là. Fait qu'il y a plusieurs choses pour de la contrefaçon qui était faite en ligne à plusieurs niveaux. Et tous ces sites-là ont été mis hors ligne finalement pour idéalement, on espère pour le bienfait de tout le monde. Fait qu'avec ces faux produits, ces choses-là, je ne sais pas à quel point ils n'ont pas listé comme c'est là, c'était quel nom de domaine qui avait été barré. Ils n'ont pas libéré ça, là. Ils n'ont pas fait de release là-dessus. Mais il semblerait justement, il y en avait au-dessus de 20 000 là, qui avaient été bloqués et saisis.
C'est un très gros nombre de choses, mais je ne sais pas si ces mesures-là à terme, parce que là, on fait comme dans le monde physique pour les saisies de drogue, on fait des gros efforts, bon, parce que c'est de toute contrefaçon en général, là, mais la drogue étant plus médiatisée. Si ça a un effet réel sur la production et la consommation, parce qu'il y a les deux, là, c'est ouais. Pas juste la production, il y a aussi la consommation de contrefaçon.
Ouais. Moi, je sais pas le rapport par rapport au fait que eux autres, combien ça leur rapporte de faire de la contrefaçon et de se faire fermer quelques sites comme ça. Parce qu'on s'entend, un nom de domaine, premièrement, ça coûte presque rien. Et possiblement qui ont été achetés bien souvent avec des bitcoins, qui ont été probablement volés et qui faisaient partie des ransomware, peut-être, ou encore des botnets. Comme tantôt avec, tu sais, c'est comme tout est possible là-dessus là, mais qu'on sait pas exactement toute l'étendue et la ramification qui peuvent faire en sorte que est-ce que ça leur rapporte quand même, puis parce que justement comme pour la drogue, on s'entend, ça continue parce que ça rapporte
puis si t'as des consommateurs, c'est que dans ce cas-ci t'as des producteurs et t'as nécessairement des consommateurs, donc là il y a un marché, puis si le marché est là, c'est qu'il est lucratif. S'il était pas lucratif, ces gens-là se baderaient pas à mettre des efforts pour mettre ça en place si c'était pas payant.
Ouais,
il y a nécessairement de l'argent là, mais...
Oui, mais il y a aussi le principe que, tu sais, je veux dire, il y a rien qui leur empêche à eux autres de dire « Bon, ma gars, une petite augmentation de 30% à cause de X. » Tu sais, fait que, à quelque part, c'est un peu comme le marché, l'offre et la demande, là. On s'entend, c'est la même chose, là, rendu là. Puis,
pareil.
C'est pour ça, là, rendu là, s'il y a une augmentation de 30%, si la personne... Puis c'est pas une question, c'est un peu comme une nécessité, rendu là, si les gens ont besoin de leur drogue, ils vont s'arranger pour l'acheter parce qu'ils en ont besoin, tu sais. Fait que c'est triste, là, tu sais, genre, je dis ça à demi-sourire, là, mais tu sais, je trouve pas ça drôle du tout, là, mais c'est vraiment triste de voir qu'à ce moment-là, étant donné que tout le monde est accroché, toutes les personnes qui sont droguées là-dessus, là, qui ont besoin de ça, sont accrochées après ça, ils ont comme pas le choix, entre guillemets, de continuer leur addiction. Et donc, ils vont trouver les moyens de pouvoir dépenser, même si c'est pratiquement deux fois, trois fois le prix, peu importe là, l'augmentation. Puis les autres vont finir quand même par avoir leur argent, même s'ils sont faits.
Ouais, c'est tout le problème, ça, de la gestion de crime. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des statistiques de tangibles face à ce genre-là ou des études qui relèvent justement le fait en dehors de toute considération. Ça, c'est sûr que les humains, quand tu mentionnais que les gens vont continuer à consommer malgré tout, c'est un fait. Puis que ça soit, c'est vrai que c'est malheureux, mais ça n'enlève pas le problème. Donc, c'est pas quand de chasser les choses à côté qui vont faire disparaître le problème, ça peut juste comme le repousser ailleurs.
Ouais.
Fait que c'est voir comment dans ces contextes-là, parce que c'est juste des moyens nouveaux pour diffuser ce qui existait déjà avant. Là. Il y a pas de. Malheureusement, on réinvente pas grand-chose.
Non, c'est ça. Fait qu'on sait pas à quel point c'est efficace, mais de à quelque part, je pense que de ne pas avoir les statistiques, ça garde quand même la possibilité ou l'espoir que les gens font une différence.
Qu'il n'y en a pas, ouais, qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça, ouais, finalement.
C'est ça, mais le fait qu'on n'ait pas de statistiques peut apporter cette mentalité d'espoir, j'imagine. Parce que c'est comme ça que je le vois, parce qu'en réalité, autrement, tu vois ça que finalement, bon, on a fait ça, puis ça a donné 0.01% de différence. Donc, on fait comme, ouais, OK, c'est comme, pourquoi qu'on le fait, tu sais?
Bon, on s'attaque peut-être à la mauvaise chose.
Exact, mais tu sais, c'est ça. Mais ça, à ce moment-là, puis il y a aussi le principe que combien de personnes ont fait de brainstorm là-dessus pour dire, bon, ben regarde, on va faire ça de même parce que ça, ça va faire un impact. Combien de personnes qui ont... Parce que c'est la même chose que quand que tu es une personne à avoir une idée puis que tu exécutes ton idée, c'est peut-être pas la meilleure idée, là. Si tu n'as pas pensé avec d'autres personnes puis qu'il n'y a pas eu d'autres... qu'il n'y a pas eu d'argumentation par rapport à ça, qui fait que tu sais pas, peut-être que c'est pas nécessairement la meilleure façon, étant donné qu'il n'y a pas eu d'études nécessairement là-dessus. Tu sais, je veux pas banaliser ce fait-là, là, mais c'est le principe qu'on on s'est vraiment pas rendu là à quel point c'est efficace. Parce que, comme tu dis, il n'y a pas de statistiques.
Non, on n'a aucune idée, mais je pense que c'est volontaire aussi. Parce que ce serait à voir avec le temps, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses-là, parce que, je veux dire, le cyber... rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles à plus de gens. Donc, c'est un peu problématique des deux côtés.
Oui, exact.
Okay. On va terminer avec une dernière nouvelle sur que l'OTAN vient de se doter, qu'on est en train de se doter de règles pour la guerre dans le cyber. c'est effectivement, c'est très comique de le voir de cette façon-là, mais ils ont commencé à adhérer sur le fait qu'il peut y avoir des armes dans le monde cyber. C'est vraiment cyber warfare. C'est vraiment, en tout cas, cela étant qu'on peut armer des programmes informatiques, qu'on peut armer des choses pour nuire à d'autres pays, puis de définir des règles qui vont déclencher, qui sont considérées comme des actes de guerre, qui ne sont pas considérées comme des actes de guerre, un peu comme ce qui s'était passé avec l'Estonie quand que je crois que c'est pas confirmé, mais en tout cas, du moins, je sais. En tout cas, supposément, la Russie aurait mis à terre leurs infrastructures.
Oui, il était déconnecté d'Internet là, complètement. Il y avait c'est quelques années de ça. Quoi, ça fait
7-8 ans. Ça date un peu. Puis le rapport d'intervention est très intéressant. Là. C'est pour ceux qui veulent aller le lire. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça donne un regard sur comment les nations s'outillent et doivent se défendre contre ce genre de menaces-là. Puis là, maintenant, ben, l'OTAN est en train de s'étaler des règles de fonctionnement qui vont peut-être encadrer et jusqu'à un certain point vont mettre la ligne où ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas, ce qui est comme déclaré comme un acte de guerre. Donc, à ce moment-là, les pays vont avoir le droit d'intervenir comme étant une agression militaire dans certaines mesures.
Ça risque de dégénérer, ça, par exemple. Si c'est mal... parce que, tu sais, c'est de se donner un peu comme quand on prend la guerre du Golfe puis tout ça, là, que, tu sais, qui se donne une raison pour « Ah, il faut qu'on se protège pour les armes de destruction massive, mais en réalité, on veut juste le pétrole. » Je sais pas à quel point on... Parce qu'on peut toujours tourner ça à notre avantage. Là, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais d'avoir une démarche, c'est déjà bien. Je dis pas que c'est pas bon, mais à quelque part, tu sais, c'est... Ça dépend comment c'est analysé, puis c'est analysé par qui. C'est analysé par des gens qui connaissent rien là-dedans. Comment tu peux prendre des décisions éclairées sur quelque chose que tu connais même pas?
Je suis entièrement d'accord avec ça, mais au moins de se doter d'un langage commun, c'est déjà moins pire que de faire les choses en dessous de la couverte, puis ne pas avoir de choses, parce qu'on est dans un univers où il ne faut pas s'en cacher. Là, on parle beaucoup de la Russie, entre autres, surtout dans le contexte des dernières élections américaines, mais une panoplie de pays en Occident qui utilisent les moyens cybernétiques pour mener des attaques contre d'autres pays, contre d'autres infrastructures, contre d'autres choses pour faire plusieurs manœuvres. Donc, de commencer à se doter d'un langage pour encadrer ça. Parce que moi, je trouve ça fascinant qu'on doive utiliser un langage parce que les actes se demeurent les mêmes, mais dans le coup présent, il semblerait que ça a l'air d'être une nécessité de définir un vocabulaire nouveau pour classifier ces choses.
Oui, mais d'avoir une entente globale, de pouvoir comprendre, bon, mais regarde ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Tu sais, comme, Ça, ça fait penser comme à l'école, hein, que t'as des petits règlements de bon, mais poussez pas les autres. Puis,
faut savoir vivre. Ça.
C'est pas drôle, pareil. Tu sais, je veux dire, quand tu y penses, là, t'es obligé de pouvoir définir ça. Ben là, fais pas de jambette à ton petit camarade, là, fais pas ça. Non, c'est un petit peu ridicule.
Non, mais, tu vas aller dans le coin.
Tu vas aller dans le coin. On va mettre ton pays dans le coin. Mais non, mais c'est comme tu dis, c'est bien qu'il y ait des démarches et qu'il y ait un langage commun qui soit établi par rapport à ça. Tant que. C'est un langage plus logique que juste de dire que l'Internet, c'est des tubes avec des camions, là. Fait que, tu sais, je veux dire, à quelque part, tant que il y a une étude qui a été faite, mais vraiment quelque chose de logique, tu sais, il y a toujours moyen de pouvoir chialer, c'est sûr. Mais c'est un début. C'est un début. J'ai hâte de voir le développement de ça, voir à quel point il va y avoir une certaine efficacité par rapport à ça, ou bien juste au moins avoir une fermeté pour dire comme quoi qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, à quel point ils vont intervenir si jamais il y a quelqu'un qui agit contre ça puis qui suit pas les règles finalement. Donc à ce moment-là, ça va être de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis non, ça, je suis curieux de voir là, comment ça va évoluer avec le temps.
Ouais, c'est ça, justement, ça va être le temps qui va nous montrer qu'est-ce que ce genre de choses-là va finir par donner, puis si ça mène à un résultat concluant ou non. Puis,
ouais,
c'est pas pour la réinitiative et non la dernière non plus qui va être mis à l'épreuve, puis que peut-être qu'il donnera pas les résultats attendus aussi.
Oui, c'est ça. Mais ben, il y a au moins le fait qu'il y a quelque chose qui se fait présentement et c'est mieux que rien. Donc, parce que dans le fond, je regarde, on a bien tendance à chialer contre le PCI DSS, par exemple. T'sais. Fait que ça me fait penser un petit peu à ça. Et c'est sûr que si tu appliques les règles de base, ça te permet pas ça va pas te permettre d'avoir une garantie que ce soit 100% sécuritaire ou bien que tu n'aies pas aucun problème. Mais quand même, ça te donne une certaine couverture sur certaines choses. Donc, d'avoir une adhérence à ce type de loi-là et de pouvoir dire, OK, nous autres, regarde, on fait pas ça. Puis à ce moment-là, tu sais, tu adhères à ça puis tu signes comme quoi que tu peux avoir des conséquences si jamais ça arrive.
Ouais, on se donne un code de vie.
Oui, exact. On va voir. Tu sais, je veux dire, faut donner la chance au coureur. On va voir. J'ai pas tendance à être pessimiste en général, mais pour ça, j'ai comme une petite tendance à être pessimiste. Pas être négatif
un petit peu. Je suis sceptique.
Oui, ouais, non, okay, non, mais c'est pas. Un sceptique, c'est vrai. Sceptique, ça serait un meilleur mot. Un meilleur mot pour ça, effectivement.
C'est un petit peu moins péjoratif dans le contexte.
Oui, non, tu as bien raison. Donc, je suis sceptique.
C'est bien beau, fait que ça va conclure notre 18e épisode.
Oui.
Il était finalement un peu finalement tout aussi long que les autres, mais juste à deux.
Oui,
très agréable.
On est capable de parler. On est capable de discuter.
De toute apparence, puis ça t'a permis de t'exprimer plus que d'habitude.
Oui, exactement.
Dans les Shameless Plug, j'ai le 14 décembre prochain, il y a un panel sur les mésaventures en sécurité faites par la SIC. Sinon, j'ai pas d'autre chose à signaler. Toi, Richard, as-tu quelque chose
à signaler en particulier? Moi, j'ai pas rien en particulier, non, comme c'est là. Pas rien, pas de Shameless Plug pour l'instant. Ça va peut-être venir à un moment donné, mais pour l'instant, j'ai pas rien.
C'est bon. Fait que ça conclut l'épisode.
Excellent.
À plus.
Over and out.
Thank you.